VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à Niamey, bienvenue à notre journal. Au Nigeria, violente explosion aujourd'hui dans un commissariat de police à Yola, capitale de l'Adamawa, un des trois états les plus touchés par l'insurrection islamiste de Boko Haram. Selon Aliyu Maikano, un responsable de la Croix-Rouge nigériane, le bâtiment sérieusement endommagé par un explosif est actuellement en feu. Impossible de donner pour le moment un bilan des victimes. Personne n'a revendiqué l'attaque, mais Yola a souvent été la cible d'attentats suicides et d'attaques à la bombe des islamistes de Boko Haram. Auparavant, toujours ce jeudi, l'armée nigérienne avait déclaré avoir déjoué une attaque du groupe islamiste contre le camp de déplacés de Dikwa dans le nord-est, déjà théâtre d'un double attentat suicide meurtrier ce mois-ci. Selon le colonel Ousmane, porte-parole de l'armée nigériane, 26 islamistes ont été tués au cours de l'opération et des armes saisies, notamment des canons anti-aériens et des explosifs. Un soldat et un milicien ont été tués et 3 soldats et 4 civils blessés, a-t-il ajouté. Élection au Niger voisin, la population toujours dans l'attente des résultats de la présidentielle de dimanche. La commission électorale fait savoir qu'aujourd'hui pourrait être la bonne date. Notre envoyé spécial à Niamey, Nicolas Pino, fait le point.
Après 145 communes sur les 308 de ce scrutin, c'est le président Mahamadou Issoufou qui est en tête, 46,16% des voix pour le candidat du PNDS Taraya, suivi de Ama Amadou, le candidat du Modène Lumana, 16,53%. Arrive en troisième position Seigne Oumarou, le candidat du MNSD Nassara, 11,44%. Puis Mahaman Ousmane, le candidat du MNRD, avec 6,68%. Cinquième, enfin, Ibrahim Yakouba, du MPN Kishinkasa, avec 6,19% des suffrages. Pour le moment, le taux de participation s'établit à 67,26%. Il reste environ 50% des résultats à dévoiler. La Commission électorale nationale indépendante, qui est évidemment critiquée pour la lenteur de la publication de ces résultats. On espère que la journée de jeudi sera décisive pour la publication du reste des résultats. Nicolas Pino, Niamey, VOA Afrique.
Au Sénégal, la rupture entre le chef de l'État et une frange importante de la société civile semble consommée. Une douzaine de mouvements citoyens et de partis sénégalais ont appelé à un non massif au référendum constitutionnel prévu le 20 mars dans le pays. Après, selon eux, le renoncement du président Macky Sall à s'appliquer un quinquennat. Les précisions d'Éric Manirakiza.
Niani Banya, c'est le slogan choisi sous une musique rap. Il est tiré d'une chanson populaire sénégalaise qui symbolise le refus. Une douzaine de mouvements citoyens et de partis politiques au Sénégal agiront désormais comme un seul homme au nom du Front du Non. Au rythme de ce morceau des rappeurs composé pour cette lutte, le porte-parole de la coalition Cheikh Tidiane Dieye a appelé au peuple à opposer un non vif massif et décisif à la constitution du président Macky Sall. Le coordonnateur de Yanamar, Fadel Barrow, en pointe dans le combat contre un troisième mandat du président Ouad en 2012, a estimé que Macky Sall figure dans le camp de ceux qui ne font pas avancer la démocratie. Sur avis du Conseil constitutionnel, selon son allocution du 16 février dernier, Macky Sall a renoncé à sa promesse électorale visant à réduire son mandat. Le passage du septennat au quinquennat prévu dans le projet de révision constitutionnelle ne pourrait pas s'appliquer avant la fin de son premier mandat, une goutte qui a fait déborder le vase.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Burundi, les 5 chefs d'État africains présents dans le pays continuent leurs efforts pour essayer de désamorcer la crise provoquée par la décision du président burundais Pierre Nkurunziza de briguer un troisième mandat contesté par l'opposition. Mardi, le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon a obtenu du président Nkurunziza qu'il accepte un dialogue inclusif avec l'opposition, à l'exception de ceux qui ont pris les armes contre le gouvernement. Plus de détails sur la visite des chefs d'État africains au Burundi avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Le ballet diplomatique s'est poursuivi ce jeudi à Bujumbura. La mission de haut niveau des chefs d'État et de gouvernement africains, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, et ses homologues sud-africains Jacob Zuma, sénégalais Macky Sall, gabonais Ali Bongo Ondimba et le premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn sont déjà à Bujumbura. Cette délégation de haut niveau a été mandatée lors de la 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine tenue à Addis Abeba les 30 et 31 janvier. Dernier objectif, faire comprendre à leurs homologues burundais que le dialogue inclusif reste une priorité pour les dirigeants africains afin de mettre fin à plus de 10 mois de violence, principalement dans les quartiers contestataires de Bujumbura. Mais plusieurs autres dignités de haut rang avaient, avant ces délégations de haut niveau, échoué, comme le Conseil de paix et de sécurité des Nations Unies. Mais Ban Ki-moon avait affirmé mardi dernier que beaucoup reste à faire, mais que la solution demeure un dialogue inclusif avec l'opposition non armée. Mais rien n'est dit si cette délégation de l'Union africaine va aborder la question épineuse de l'envoi d'une force de maintien de la paix au Burundi. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Qu'attend le gouvernement burundais de la délégation de l'Union africaine? Écoutons les déclarations du ministre burundais des Affaires étrangères, Alain Niamitwe, à l'arrivée des chefs d'État africains à l'aéroport de Bujumbura.
Tout ce qu'on pourrait attendre d'eux, je crois qu'ils ont eu un mandat précis de la part du sommet de l'Union africaine qui a précisé qu'ils viendront s'entretenir avec les autorités burundaises, mais aussi avec les parties prenantes burundaises pour effectivement discuter des questions en rapport avec le dialogue. Or, nous sommes déjà engagés dans le dialogue, nous sommes déjà engagés à pleine vitesse dans le dialogue inclusif inter-Burundais. Vous savez très bien qu'il y a des séminaires, des colloques qui ont été organisés pour permettre aux Burundais qui le souhaitent de s'exprimer. Le plus important, c'est qu'il y a une plateforme, il y a une plateforme qui est ouverte et que les citoyens, tous ceux qui souhaiteraient prendre la parole, sont les bienvenus. Sauf, bien entendu, ceux qui ont pris les armes. Parce que ça, c'est contraire à la résolution 2248 du Conseil de sécurité.
Le ministre burundais des Affaires étrangères, Alain Niamitwe. Au Congo-Brazzaville, une quatrième convocation des services de sécurité a été adressée en une semaine au général Jean-Marie Michel Mokoko, rival du président Denis Sassou Nguesso dans la course à la magistrature suprême, alors que sa candidature vient d'être validée pour la présidentielle du 20 mars. Le général candidat est attendu ce jeudi à la Direction générale de la surveillance du territoire. Il avait déjà subi lundi un interrogatoire de 6 heures. Marc Mapingu Mitumbi, représentant du général Mokoko à l'étranger, dénonce un harcèlement politique.
Il a été pendant longtemps conseiller, jusqu'à il n'y a pas longtemps, en matière de sécurité et de paix, conseiller spécial du chef de l'État. Alors pour quelqu'un qui est dangereux et qui aurait voulu faire un coup d'État pour déstabiliser un pays, c'est que les gens sérieux et civilisés ne comprennent pas pourquoi le chef de l'État a pu le garder autour de lui pendant tout ce temps et l'envoyer en mission dans d'autres pays comme un messager de la paix. Nous avons compris qu'on est dans des pratiques anciennes, totalitaires. Ce qui est vrai, c'est que le coup d'État ne s'est jamais passé, et c'est une affaire qui date de 10 ans, et ceux qui sont aux affaires sont arrivés par la force en marchant sur les cadavres des innocents.
Marc Mapingu Mitumbi, représentant du général Mokoko à l'étranger. Au Congo-Kinshasa voisin, le tribunal de grande instance de Goma, dans l'est du pays, a prononcé une sentence de 2 ans de prison ferme contre 6 militants du mouvement Lucha, ou lutte pour le changement. Ils étaient accusés de fomenter la révolte suite à leur soutien ouvert à un mot d'ordre de grève. Chérubin Dorsil.
Les 6 militants pro-démocratie avaient été arrêtés le 16 février dernier, jour de la grève générale décrétée par l'opposition pour défendre la démocratie et lancer un avertissement à Joseph Kabila. Cette date marque l'anniversaire de la répression meurtrière de la marche des chrétiens de 1992, alors qu'ils réclamaient la démocratie au dictateur Mobutu Sese Seko. Il faut noter que Lucha s'est toujours voulu un mouvement apolitique et non violent. Cette peine de 2 ans est néanmoins bien moindre que les 10 ans requis par le ministère public. Le tribunal de grande instance de Goma, capitale du Nord Kivu, les a condamnés à 2 ans de prison ferme pour incitation à la révolte, précise l'AFP, citant leur avocat, maître Georges Kapiamba. Pour la défense, c'est un verdict politique, pris malgré divers appels en faveur de leur libération. Mardi, l'Organisation américaine de défense des droits humains, Human Rights Watch, a demandé aux autorités congolaises de libérer, je cite, « toutes les personnes injustement arrêtées ou détenues sous des accusations fallacieuses ». Deux autres membres de l'UTCHA arrêtés à Kinshasa ont été placés sous mandat d'arrêt provisoire et transférés en prison selon leur avocat.
Pour terminer, conflit en Syrie, Moscou et Washington accentuent la pression sur leurs alliés respectifs dans la guerre pour faire respecter un cessez-le-feu censé entrer en vigueur samedi. De son côté, l'ONU discute d'un projet de résolution qui entérinerait l'accord de cessation des hostilités. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.